Chapitre 13e, la dernière bataille. En regagnant son cabinet, Prasville reconnut dans la salle d'attente, assis sur une banquette, le sieur Nicole, avec son dos voûté, son air souffreteux, son parapluie de cotonnade, son chapeau bossué et son unique gant. « C'est bien lui, » se dit Prasville, qui avait craint un instant que Lupin ne lui ait dépêché un autre sieur Nicole. « Et s'il vient en personne, c'est qu'il ne se doute nullement qu'il est démasqué. » Et pour la troisième fois, il prononça « Tout de même, quel culot !» Il referma la porte de son cabinet et fit venir son secrétaire. « Monsieur Lartigue, je vais recevoir ici un personnage assez dangereux et qui, selon toute probabilité, ne devra sortir de mon cabinet que le cabriolet aux mains. Aussitôt qu'on l'aura introduit, veuillez prendre toutes les dispositions nécessaires, avertir une douzaine d'inspecteurs, et les poster dans l'antichambre et dans votre bureau. La consigne est formelle. Au premier coup de sonnette, vous entrez tous, le revolver au poing, et vous entourez le personnage. C'est compris ?
Oui, monsieur le secrétaire général.
Surtout, pas d'hésitation. Une entrée brusque, en masse, et le Browning au poing. À la dure, n'est-ce pas ? Faites venir le sieur Nicole, je vous prie. Dès qu'il fut seul, Prasville, à l'aide de quelques papiers, cacha le bouton de la sonnette électrique disposée sur son bureau et plaça derrière un rempart de livres de revolvers de dimensions respectables. « Maintenant, se dit-il, jouons serré. S'il a la liste, prenons-la. S'il ne l'a pas, prenons-le. Et si c'est possible, prenons-les tous les deux, Lupin et la liste des 27, dans la même journée. Et surtout, après le scandale de ce matin, voilà qui me mettrait singulièrement en lumière. » On frappait, il cria « Entrez !» et se levant « Entrez donc, monsieur Nicole !» Monsieur Nicole s'aventura dans la pièce d'un pas timide, s'installa sur l'extrême bord de la chaise qu'on lui désignait et articula « Je viens reprendre notre conversation d'hier. Vous excuserez mon retard, monsieur. »«
Une seconde, » dit Prasville, « vous permettez ?»
Il se dirigea vivement vers l'antichambre et apercevant son secrétaire « J'oubliais. » « Monsieur Lartigue, qu'on inspecte les couloirs et les escaliers, au cas où il y aurait des complices. » Il revint, s'installa bien à son aise, comme pour une longue conversation à laquelle on s'intéresse fort, et il commença. « Vous disiez donc, monsieur Nicole ?»«
Je disais, monsieur le secrétaire général, que je m'excusais de vous avoir fait attendre hier soir. Divers empêchements m'ont retenu, madame Mergy, d'abord. »«
Oui, madame Mergy, que vous avez dû reconduire, en effet. » et que j'ai dû soigner. Vous comprenez son désespoir à la malheureuse. Son fils Gilbert, si près de la mort, et quelle mort! À cette heure-là, nous ne pouvions plus compter que sur un miracle. Impossible. Moi-même, je me résignais à l'inévitable, n'est-ce pas? Quand le sort s'acharne après vous, on finit par se décourager.
Mais, remarqua Prasville, il m'avait semblé que votre dessein, en me quittant, était d'arracher à Dobrec son secret coûte que coûte.
Certes. Mais Dobrec n'était pas à Paris,
hein ?
Non, je le faisais voyager en automobile.
Vous avez donc une automobile, monsieur Nicole ?
À l'occasion, oui. Une vieille machine démodée, un vulgaire taco. Il voyageait donc en automobile, ou plutôt sur le toit d'une automobile, au fond de la malle où je l'avais enfermé. Et l'automobile, hélas, ne pouvait arriver qu'après l'exécution. Alors ?
Prasville observa monsieur Nicole d'un air stupéfait. Et s'il avait pu conserver le moindre doute sur l'identité réelle du personnage, cette façon d'agir envers Dobrec le lui eût enlevé. Bigre! Enfermer quelqu'un dans une malle et le jucher sur le haut d'une automobile. Lupin seul se permettait ces fantaisies et Lupin seul les confessait avec ce flegme ingénu.
« Alors, dit Prasville, qu'avez-vous décidé ?
J'ai cherché un autre moyen.
Lequel ?
Mais... « Monsieur le secrétaire général, il me semble que vous le savez aussi bien que moi. »«
Comment ?»«
Dame, n'assistez-vous pas à l'exécution ?»«
Oui. »«
En ce cas, vous avez vu Vaucheray et le bourreau frapper tous les deux, l'un mortellement, l'autre d'une blessure légère, et vous devez bien penser... »«
Ah !» fit Prasville ahuri. « Vous avouez, c'est vous qui avez tiré ce matin. »«
Voyons, monsieur le secrétaire général, réfléchissez. Pouvais-je choisir ?» La liste des 27 examinée par vous était fausse. Dobrec, qui possédait la véritable, n'arrivait que quelques heures après l'exécution. Il ne me restait donc qu'un moyen de sauver Gilbert et d'obtenir sa grâce, c'était de retarder cette exécution de quelques heures. Évidemment, n'est-ce pas? En abattant cette brute infâme, ce criminel endurci qui s'appelait Vaucheray, puis en blessant le bourreau, je semais le désordre et la panique. Je rendais matériellement et moralement impossible l'exécution de Gilbert, et je gagnais les quelques heures qui m'étaient indispensables. « Évidemment, » répéta Prasville, et Lupin reprit. « N'est-ce pas? Cela nous donne à tous, au gouvernement, au chef de l'État et à moi, le temps de réfléchir et de voir un peu clair dans cette question. Non, mais songez à cela, l'exécution d'un innocent, la tête d'un innocent qui tombe. Pourrais-je donner une telle autorisation? Non, à aucun prix, il fallait agir. » J'ai agi. Qu'en pensez-vous, monsieur le secrétaire général ? Prasville pensait bien des choses, et surtout que le sieur Nicole faisait preuve, comme on dit, d'un toupet infernal, d'un tel toupet, qu'il y avait lieu de se demander si vraiment on devait confondre Nicole avec Lupin et Lupin avec Nicole. Je pense, monsieur Nicole, que pour tuer à la distance de 150 pas un individu que l'on veut tuer, et pour blesser un autre individu que l'on ne veut que blesser, il faut être rudement adroit. « J'ai quelque entraînement, » dit M. Nicole d'un air modeste. « Et je pense aussi que votre plan ne peut être que le fruit d'une longue préparation. Mais pas du tout. C'est ce qui vous trompe. Il fut absolument spontané. Si mon domestique, ou plutôt si le domestique de l'ami qui m'a prêté son appartement de la place Clichy, ne m'avait pas réveillé de force pour me dire qu'il avait servi autrefois comme garçon de magasin dans cette petite maison du boulevard Arago, que les locataires étaient peu nombreux et qu'il y avait peut-être quelque chose à tenter, à l'heure actuelle, ce pauvre Gilbert aurait la tête coupée, et Madame Mergis serait morte, tout probablement. Ah, vous croyez? J'en suis sûr. Et c'est pourquoi j'ai sauté sur l'idée de ce fidèle domestique. Ah, seulement, vous m'avez bien gêné, monsieur le secrétaire général. Moi? Mais oui. Voilà-t-il que vous aviez eu la précaution biscordue de poster 12 hommes à la porte de ma maison? Il m'a fallu remonter les 5 étages de l'escalier de service et m'en aller par le couloir des domestiques et par la maison voisine. Fatigue inutile. Désolé, monsieur Nicole, une autre fois. C'est comme ce matin, à 8 heures, lorsque j'attendais l'auto qui m'amenait d'Aubrec dans sa malle. J'ai dû faire le pied de grue sur la place de Clichy pour que cette auto ne s'arrêtât point devant la porte de mon domicile et pour que vos agents n'intervinssent pas dans mes petites affaires, sans quoi, de nouveau, Gilbert et Clarisse Mergy étaient perdus. « Mais, dit Prasville, ces événements douloureux ne sont, il me semble, que retardés d'un jour, de 2, de 3, tout au plus. Pour les conjurer définitivement, il faudrait la liste véritable, n'est-ce pas ?»« Justement, et vous ne l'avez peut-être pas. Je l'ai. La liste authentique, irréfutablement authentique. Avec la croix de Lorraine, avec la croix de Lorraine. » Prasville se tut. Une émotion violente l'étreignait. Maintenant que le duel s'engageait avec cet adversaire dont il connaissait l'effrayante supériorité, et il frissonnait à l'idée qu'Arsène Lupin, le formidable Arsène Lupin, était en face de lui, calme, paisible, poursuivant son but avec autant de sang-froid que s'il eût entre les mains toutes les armes et qu'il se fût trouvé devant un ennemi désarmé. N'osant encore l'attaque de front, presque intimidé, Prasville dit « Ainsi Dobrec vous la livrez. » Dobrec ne livre rien, je l'ai prise. De force, par conséquent. Mon Dieu, non, dit M. Nicole en riant. Ah, certes, j'étais résolu à tout. Et lorsque ce bon Dobrec fut exhumé par mes soins de la malle où il voyageait en grande vitesse, avec comme alimentation quelques gouttes de chloroforme, j'avais préparé la chose pour que la danse commençât sur l'heure. Oh, pas d'inutile torture, pas de vaine souffrance, non, la mort, simplement. La pointe d'une longue aiguille qu'on place sur la poitrine à l'endroit du cœur et que l'on enfonce peu à peu, doucement, gentiment, pas autre chose. Mais cette pointe, c'était Madame Mergy qui l'aurait dirigée. Vous comprenez? Une mère, c'est impitoyable. Une mère dont le fils va mourir. Parle, Dobrec, ou j'enfonce. Tu ne vas pas parler? Alors j'y gagne 1 millimètre. Et puis un autre encore. Et le cœur du patient s'arrête de battre. Ce cœur qui sent à l'approche de l'aiguille, et puis 1 millimètre encore, et puis un autre encore. Ah, je vous jure Dieu qu'il eût parlé, le bandit. Et penché sur lui, nous attendions son réveil, en frémissant d'impatience, tellement nous avions hâte. Vous voyez d'ici, monsieur le secrétaire général, le bandit couché sur un divan, bien garrotté, la poitrine nue, et faisant des efforts pour se dégager des fumées de chloroforme qui l'étourdissent. Il respire plus vite. Il souffle. Il reprend conscience. Ses lèvres s'agitent. Déjà, Clarisse Mergy murmure. « C'est moi. C'est moi, Clarisse. Tu veux répondre, misérable ?» Elle a posé son doigt sur la poitrine de Dobrec, à la place où le cœur remue comme une petite bête cachée sous la peau. Mais elle me dit « ses yeux, je ne les vois pas sous les lunettes. Je veux les voir. » Et moi aussi, je veux les voir, ces yeux que j'ignore. Je veux lire en eux, avant même d'entendre une parole, le secret qui jaillira du fond de l'être épouvanté. Je veux voir. Je suis avide de voir. Déjà, l'acte que je vais accomplir me surexcite. Il me semble que, quand j'aurai vu, le voile se déchirera. Je saurai. C'est un pressentiment. C'est l'intuition profonde de la vérité qui me bouleverse. Le lorgnon n'est plus là. Mais les grosses lunettes opaques y sont encore, et je les arrache brusquement. Et brusquement, secoué par une vision déconcertante, ébloui par la clarté soudaine qui me frappe et riant, mais riant à me décrocher la mâchoire, d'un coup de pouce, hop, là, je fais sauter l'œil gauche. Monsieur Nicole riait vraiment, et comme il le disait, à s'en décrocher la mâchoire. Et ce n'était plus le timide petit pion de province, onctueux et sournois, mais un gaillard plein d'aplomb, qui avait déclamé et mimé toute la scène avec une fougue impressionnante, et qui maintenant riait d'un rire strident que Praville ne pouvait écouter sans malaise. « Hop là, saute, marquis, hors de la niche, Azor. Deux yeux, pourquoi faire? C'est un trop, hop là. Non, mais Clarisse, regardez celui-là qui roule sur le tapis. Attention, œil de Dobrec, gare à la salamandre. » Monsieur Nicole, qui s'était levé et qui simulait une chasse à travers la pièce, se rassit, sortit un objet de sa poche, le fit rouler dans le creux de sa main comme une bille, le fit sauter en l'air comme une balle, le remit en son gousset et déclara froidement « L'œil gauche de Dobrec ». Praville était abasourdi. Où voulait donc en venir son étrange visiteur? Et que signifiait toute cette histoire? Très pâle, il prononça « Expliquez-vous ». Mais c'est tout expliqué, il me semble. Et c'est tellement conforme à la réalité des choses. Tellement conforme à toutes les hypothèses que je faisais malgré moi depuis quelque temps, et qui m'auraient conduit fatalement au but si ce satané Dobrec ne m'en avait détourné si habilement. Eh oui, réfléchissez. Suivez la marque de mes suppositions. Puisqu'on ne découvre la liste nulle part en dehors de Dobrec, me disais-je, c'est que cette liste ne se trouve pas en dehors de Dobrec, et puisqu'on ne la découvre point dans les vêtements qu'il porte, c'est qu'elle se trouve cachée plus profondément encore, en lui-même, pour parler plus clairement, à même sa chair, sous sa peau. « Dans son œil, peut-être, » fit Praville en plaisantant. « Dans son œil, monsieur le secrétaire général, vous avez dit le mot juste. Quoi ? Dans son œil, je le répète, et c'est une vérité qui aurait dû logiquement me venir à l'esprit. » Au lieu de m'être révélé par le hasard. Voici pourquoi. Dobrec, sachant que Clarisse Mergy avait surpris une lettre de lui par laquelle il demandait à un fabricant anglais d'évider le cristal à l'intérieur de façon à laisser un vide qu'il fût impossible de soupçonner, Dobrec devait par prudence détourner les recherches. Et c'est ainsi qu'il fit faire sur un modèle fourni un bouchon de cristal évidé à l'intérieur. Et c'est après ce bouchon de cristal que vous et moi, nous courons depuis des mois. Et c'est ce bouchon de cristal que j'ai déniché au fond d'un paquet de tabac alors qu'il fallait. « Alors qu'il fallait ?» questionna Praville, intrigué. Monsieur Nicole pouffa de rire. « Alors qu'il fallait tout simplement s'en prendre à l'œil de Dobrec, à cet œil évidé à l'intérieur de façon à former une cachette invisible et impénétrable, à cet œil que voici. » Et Monsieur Nicole, sortant de nouveau l'objet de sa poche, en frappa la table à diverses reprises, ce qui produisit le bruit d'un corps dur. Praville murmura « Un œil de verre !»« Mon Dieu, oui !» s'écria M. Nicole, qui riait de plus belle. « Un œil de verre ! Un vulgaire bouchon de carafe, que le brigand s'était introduit dans l'orbite à la place d'un œil mort. Un bouchon de carafe, ou si vous préférez un bouchon de cristal. Mais le véritable, cette fois, qu'il avait truqué, qu'il protégeait derrière le double rempart d'un binocle et de lunettes, et qui contenait et qui contient encore le talisman grâce auquel Dovrègue travaillait en toute sécurité. Praville baissa la tête et mit la main devant son front pour dissimuler la rougeur de son visage. Il possédait presque la liste des 27. Elle était devant lui, sur la table. Dominant son trouble, il dit d'un air dégagé « Elle y est donc encore ?»« Du moins, je le suppose, » affirma M. Nicole. « Comment vous supposez ?»« Je n'ai pas ouvert la cachette. C'est un honneur que je vous réservais, monsieur le secrétaire général. » Braville avança le bras, saisit l'objet et le regarda. C'était un bloc de cristal, imitant la nature à s'y tromper, avec tous les détails du globe de la prunelle, de la pupille, de la cornée. Tout de suite, il vit par derrière une partie mobile qui glissait. Il fit un effort. L'œil était creux. À l'intérieur, il y avait une boulette de papier. Il la déplia et rapidement, sans s'attarder à un examen préalable des noms, de l'écriture ou de la signature, il leva les bras et tourna le papier vers la clarté des fenêtres. « La croix de Lorraine s'y trouve bien ?» demanda M. Nicole. « Elle s'y trouve, » répondit Praville. « Cette liste est la liste authentique. » Il hésita quelques secondes et demeura les bras levés, tout en réfléchissant à ce qu'il allait faire. Puis il replia le papier, le rentra dans son petit écrin de cristal et fit disparaître le tout dans sa poche. M. Nicole, qui le regardait, lui dit « Vous êtes convaincu ?»« Absolument. Par conséquent, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. » Il y eut un silence, durant lequel les deux hommes s'observaient sans en avoir l'air. M. Nicole semblait attendre la suite de la conversation. Praville, qui à l'abri des livres accumulés sur la table, tenait d'une main son revolver et de l'autre touchait au bouton de la sonnerie électrique, Praville sentait avec un âpre plaisir toute la force de sa position. Il était maître de la liste, il était maître de Lupin. « S'il bouge, pensait-il, je braque mon revolver sur lui et j'appelle. S'il m'attaque, je tire. » À la fin, M. Nicole reprit « Puisque nous sommes d'accord, monsieur le secrétaire général, je crois qu'il ne vous reste plus qu'à vous hâter. L'exécution doit avoir lieu demain. Demain. En ce cas, j'attends ici. Vous attendez quoi ?»« La réponse de l'Élysée. »« Ah, quelqu'un doit vous apporter cette réponse ?»« Oui, vous, monsieur le secrétaire général. » Praville hocha la tête. « Il ne faut pas compter sur moi, monsieur Nicole. »« Vraiment ?» fit M. Nicole d'un air étonné. « Peut-on savoir la raison ?» « J'ai changé d'avis. Tout simplement. Tout simplement. J'estime qu'au point où en sont les choses, après le scandale de cette nuit, il est impossible de rien tenter en faveur de Gilbert. De plus, une démarche en ce sens à l'Élysée, dans les formes où elle se présente, constitue un véritable chantage auquel, décidément, je refuse de me prêter. Libre à vous, monsieur. Ces scrupules, bien que tardifs, puisque vous ne les aviez pas hier, ces scrupules vous honorent. Mais alors, monsieur le secrétaire général, le pacte que nous avons conclu étant déchiré, rendez-moi la liste des 27. Pourquoi faire? Pour m'adresser à un autre intermédiaire que vous. À quoi bon? Gilbert est perdu. Mais non, j'estime au contraire qu'après l'incident de cette nuit, son complice étant mort, il est d'autant plus facile d'accorder cette grâce que tout le monde trouvera juste et humaine. Rendez-moi cette liste. Non. Bigre, monsieur, vous n'avez pas la mémoire longue, ni la conscience bien délicate. Vous ne vous rappelez donc pas vos engagements d'hier? Hier, je me suis engagé vis-à-vis d'un monsieur Nicole. Eh bien, vous n'êtes pas monsieur Nicole. En vérité, qui suis-je donc? Dois-je vous l'apprendre? Monsieur Nicole ne répondit pas, mais il se mit à rire, comme s'il eût jugé avec satisfaction le tour singulier que prenait l'entretien. Et Praville éprouva une inquiétude confuse en voyant cet accès de gaieté. Il serra la crosse de son arme et se demanda s'il ne devait pas appeler du secours. M. Nicole poussa sa chaise tout près du bureau, posa ses deux coudes sur les papiers, considéra son interlocuteur bien en face et ricana. « Ainsi, M. Praville, vous savez qui je suis, et vous avez l'aplomb de jouer ce jeu avec moi. »« J'ai cet aplomb, » dit Praville, qui soutint le choc sans broncher. « Ce qui prouve que vous me croyez, moi, Arsène Lupin. »« Prononçons le nom, oui, Arsène Lupin. »« Ce qui prouve que vous me croyez assez idiot, assez poire, pour me livrer ainsi, pieds et poings liés. »« Mon Dieu !» plaisanta Praville, en tapotant le gousset où il avait enfoui le globe de cristal. Je ne vois pas trop ce que vous pouvez faire, monsieur Nicole, maintenant que l'œil de Dobrec est là, et que dans l'œil de Dobrec se trouve la liste des 27. Ce que je peux faire, répéta monsieur Nicole avec ironie. Eh oui, le talisman ne vous protégeant plus, vous ne valez plus que ce que peut valoir un homme tout seul, qui s'est aventuré au cœur même de la préfecture de police, parmi quelques douzaines de gaillards qui se tiennent derrière chacune de ces portes, et quelques centaines d'autres qui accourront au premier signal. Monsieur Nicole eut un haussement d'épaule et il regarda Prasville avec pitié. « Savez-vous ce qui arrive, monsieur le secrétaire général ?»« Eh bien, vous aussi, toute cette histoire vous tourne la tête. Possesseur de la liste, vous voilà subitement, comme état d'âme, au niveau d'un Dobrec ou d'un Albufex. Il n'est même plus question, dans votre esprit, de la porter à vos chefs, afin que soit anéanti ce ferment de honte et de discorde. Non, non, une tentation soudaine vous grise. » Et, pris de vertige, vous vous dites « Elle est là, dans ma poche. Avec cela, je suis tout-puissant. Avec cela, c'est la richesse, le pouvoir absolu, sans limite. Si j'en profitais, si je laissais mourir Gilbert et mourir Clarisse Mergy, si je faisais coffrer cet imbécile de Lupin, si j'empoignais cette occasion unique de fortune. » Il s'inclina vers Prasville et, très doucement, d'un ton de confidence, amical, il lui dit « « Faites pas ça, cher monsieur, faites pas ça. Et pourquoi donc ? Ce n'est pas votre intérêt, croyez-moi. En vérité, non ? Ou bien, si vous tenez absolument à le faire, veuillez auparavant consulter les 27 noms de la liste que vous venez de me cambrioler et méditer le nom du troisième personnage. Ah, et le nom de ce troisième personnage ? C'est celui d'un de vos amis. Lequel ? L'ex-député Stanislas Forenglad. Et après ? Dit Prasville, qui parut perdre un peu de son assurance. Après, demandez-vous si, derrière ce Forenglad, une enquête même sommaire, ne finirait pas par découvrir celui qui partage avec lui certains petits bénéfices, et qui s'appelle Louis Prasville. Qu'est-ce que vous chantez ? Balbutia Prasville. Je ne chante pas, je parle. Et je dis que si vous m'avez démasqué, votre masque à vous ne tient plus beaucoup. Et que là-dessous, ce qu'on aperçoit, « n'est pas joli, joli. » Prasville s'est élevé. Monsieur Nicole donna sur la table un violent coup de poing et s'écria. « Assez de bêtises, monsieur. Voilà 20 minutes qu'on tourne tous les deux autour du pot. Ça suffit. Concluons maintenant. Et tout d'abord, lâchez vos pistolets. Si vous vous figurez que ces mécaniques-là me font peur, allons, finissons-en, je suis pressé. » Il mit sa main sur l'épaule de Prasville et scanda. « Si !» « Vous n'êtes pas revenu de la présidence, porteur de quelques lignes affirmant que le décret de grâce est signé. Si dans 1h10, moi, Arsène Lupin, je ne sors pas d'ici sain et sauf, entièrement libre, ce soir, 4 journaux de Paris recevront 4 lettres choisies dans la correspondance échangée entre Stanislas Forenglad et vous, correspondance que Stanislas Forenglad m'a vendue ce matin. Voici votre chapeau, votre canne et votre pardessus. Filez, j'attends. » Il se passa ce fait extraordinaire, et pourtant fort explicable, c'est que Prasville n'émit pas la plus légère protestation et n'entama pas le plus petit commencement de lutte. Il eut la sensation soudaine, profonde, totale, de ce qu'était, dans son ampleur et dans sa toute-puissance, ce personnage qu'on appelait Arsène Lupin. Il ne songea même pas à épiloguer, à prétendre, ce qu'il avait cru jusque-là, que les lettres avaient été détruites par le député Forenglad, ou bien en tout cas que Forenglad n'oserait pas les livrer, puisqu'en agissant ainsi, c'eût été se perdre soi-même. Non, il ne souffla pas mot. Il se sentait étreint dans un étau dont aucune force ne pouvait desserrer les branches. Il n'y avait rien à faire qu'à céder. Il céda. « Dans 1 heure, ici, » répéta M. Nicole. « Dans 1 heure, » dit Prasville avec une docilité parfaite. Cependant, il précisa, « Cette correspondance me sera rendue contre la grâce de Gilbert. » « Non. » « Comment non ? Alors il est inutile. Elle vous sera rendue intégralement 2 mois après le jour où mes amis et moi aurons fait évader Gilbert, cela grâce à la surveillance très lâche qui, conformément aux ordres donnés, sera exercée autour de lui. » « C'est tout ? Non. Il y a encore 2 conditions. Lesquelles ? 1. la remise immédiate d'un chèque de 40 000 francs.
40 000 francs,
c'est le prix auquel Forenglade m'a vendu les lettres, en toute justice. Après, 2, votre démission dans les 6 mois du poste que vous occupez.
Ma démission, pourquoi ?
Monsieur Nicole eut un geste très digne.
Parce qu'il est immoral qu'un des postes les plus élevés de la préfecture de police soit occupé par un homme dont la conscience n'est pas nette. Faites-vous octroyer une place de député, de ministre ou de concierge, enfin, toute situation que votre réussite vous permettra d'exiger.
Mais secrétaire général de la préfecture, non, pas cela, ça me dégoûte.
Prasville réfléchit un instant.
L'anéantissement subi de son adversaire l'eut profondément réjoui, et de tout son esprit, il chercha les moyens d'y parvenir.
Mais que pouvait-il faire ?
Il se dirigea vers la porte et appela
« Monsieur Lartigue ?»
Et plus bas, mais de manière à ce que Monsieur Nicole l'entendit,
« Monsieur Lartigue, congédiez vos agents. Il y a erreur. Et que personne n'entre dans mon bureau pendant mon absence. Monsieur m'y attendra. »
Il prit le chapeau, la canne et le pardessus que Monsieur Nicole lui tendait et sortit.
« Tous mes compliments, monsieur, » murmura Lupin quand la porte se fut refermée.
« Vous vous êtes montré d'une correction parfaite.
Moi aussi, d'ailleurs.
Avec une pointe de mépris, peut-être un peu trop apparente, et un peu trop de brutalité.
Mais ces affaires-là demandent à être menées tambour battant. Il faut étourdir l'ennemi, et puis quoi ?
Quand on a la conscience d'une hermine, on ne saurait le prendre de trop haut avec ces sortes de gens.
Relève la tête, Lupin. Tu fus le champion de la morale offensée. Sois fier de ton œuvre. Et maintenant, allonge-toi et dors. Tu l'as bien gagné. »
Lorsque Prasville revint, il trouva Lupin endormi profondément et il dut lui frapper l'épaule pour le réveiller.
« C'est fait ? » demanda Lupin.
« C'est fait. Le décret de grâce sera signé tantôt. Et voici la promesse écrite. »
« Les 40 000 francs. Voici le chèque. »
« Bien. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, monsieur. »
« Ainsi, la correspondance ?»
La correspondance de Stanislas Forenglade vous sera remise aux conditions indiquées. Cependant, je suis heureux de pouvoir dès maintenant, et en signe de reconnaissance, vous donner les lettres que je devais envoyer aux journaux.
« Ah ? » fit Prasville, « vous les avez donc sur vous ?»«
J'étais tellement sûr, monsieur le secrétaire général, que nous finirions par nous entendre. »
Il extirpa de son chapeau une enveloppe assez lourde, cachetée de 5 cachets rouges, et qui était épinglée sous la coiffe, et il la tendit à Prasville, qui l'empocha vivement. Puis il dit encore
« Monsieur le secrétaire général, je ne sais trop quand j'aurai le plaisir de vous revoir. Si vous avez la moindre communication à me faire, une simple ligne aux petites annonces du journal suffira. Comme adresse, monsieur Nicole, je vous salue. »
Il se retira.
À peine seul, Prasville eut l'impression qu'il s'éveillait d'un cauchemar pendant lequel il avait accompli des actes incohérents et sur lesquels sa conscience n'avait eu aucun contrôle. Il fut prêt de sonner, de jeter l'émoi dans les couloirs, mais en ce moment on frappait à la porte et l'un des huissiers entra vivement.
« Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda Prasville.
« Monsieur le secrétaire général, c'est monsieur le député Dobrec qui désire être reçu pour une affaire urgente.
Dobrec ? » s'écria Prasville stupéfait.
« Dobrec, ici ?
Faites entrer. »
Dobrec n'avait pas attendu l'ordre. Il se précipitait vers Prasville, essoufflé, les vêtements en désordre, un bandeau sur l'œil gauche, sans cravate, sans faux col, l'air d'un fou qui vient de s'échapper, et la porte n'était pas close, qu'il agrippait Prasville de ses 2 mains énormes.
« Tu as la liste ? » ?»«
Oui. »
« Tu l'as achetée ? » ?»«
Oui. » »«
Contre la grâce de Gilbert ? » ?»«
Oui. » »«
C'est signé ? » ?»«
Oui. »
Dobrec eut un mouvement de rage.
« Imbécile ! Imbécile, tu t'es laissé faire ! Par haine contre moi, n'est-ce pas ? Et maintenant, tu vas te venger ! » !»«
Avec un certain plaisir, Dobrec. Rappelle-toi ma petite amie de Nice, la danseuse de l'opéra. C'est ton tour maintenant de danser. » »«
Alors, c'est la prison ? » ?»«
Pas la peine, » dit Prasville. « Tu es fichu. Privé de liste, tu vas t'effondrer de toi-même. Et moi, j'assisterai à ta débâcle. Voilà ma vengeance. »
« Et tu crois ça ?»
proféra Dobrec, exaspéré.
« Tu crois qu'on m'étrangle comme un poulet, et que je ne saurais pas me défendre, et que je n'ai plus de griffes et de crocs pour mordre. Eh bien, mon petit, si je reste sur le carreau, il y en aura toujours un qui tombera avec moi. Ce sera le sieur Prasville, l'associé de Stanislas Forenglade. » lequel Stanislas Vorenglade va me remettre toutes les preuves possibles contre lui. De quoi te faire ficher en prison pour l'heure. Ah, je te tiens. Avec ces lettres, tu marcheras droit, crebleu. Et il y a encore de beaux jours pour le député Dobrec. Quoi? Tu rigoles? Ces lettres n'existent peut-être pas? Praville haussa les épaules. Si, elles existent, mais Vorenglade ne les a plus.
Depuis quand?
Depuis ce matin. Vorenglade les a vendues, il y a 2 heures, contre la somme de 40 000 francs. Et moi, je les ai rachetées, le même prix.
Dobrec eut un rire formidable.
Dieu que c'est drôle! 40 000 francs! Tu as payé 40 000 francs!
À M. Nicole, n'est-ce pas? À celui qui t'a vendu la liste des 27.
Eh bien, veux-tu que je te dise le vrai nom de ce M. Nicole?
C'est Arsène Lupin.
Je le sais bien.
Peut-être.
Mais ce que tu ne sais pas, triple idiot, c'est que j'arrive de chez Stanislas Vorenglade et que Stanislas Vorenglade a quitté Paris depuis 4 jours.
Ce qu'elle est bonne, celle-là.
On t'a vendu du vieux papier. 40 000 francs. Mais quel idiot!
Il partit en riant aux éclats et laissant Praville absolument effondré.
Ainsi, Arsène Lupin ne possédait aucune preuve, et quand il menaçait, quand il ordonnait, et quand il le traitait, lui, Praville, avec ses désinvoltures insolentes, tout cela, c'était de la comédie, du bluff.
« mais non, ce n'est pas possible !» répétait le secrétaire général.
« J'ai l'enveloppe cachetée, elle est là, je n'ai qu'à l'ouvrir !»
Il n'osait pas l'ouvrir. Il la maniait, la soupesait, la scrutait, et le doute pénétrait si rapidement en son esprit qu'il n'eut aucune surprise, l'ayant ouverte, de constater qu'elle contenait 4 feuilles de papier blanc.
« Allons, se dit-il, je ne suis pas de force, mais tout n'est pas fini. »
Tout n'était pas fini, en effet. Si Lupin avait agi avec autant d'audace, c'est que les lettres existaient, et qu'il comptait bien les acheter à Stanislas Vorenglade. Mais, puisque d'autre part Vorenglade ne se trouvait pas à Paris, la tâche de Praville consistait simplement à deviner la démarche de Lupin auprès de Vorenglade et obtenir de Vorenglade, coûte que coûte, la restitution de ces lettres si dangereuses. Le premier arrivé serait le vainqueur. Praville reprit son chapeau, son pardessus et sa canne, descendit, monta dans une auto et se fit conduire au domicile de Vorenglade. Là, il lui fut répondu qu'on attendait l'ancien député, retour de Londres, à 6 heures du soir. Il était 2 heures de l'après-midi. Praville eut donc tout le loisir de préparer son plan. À 5 heures, il arrivait à la gare du Nord et postait, de droite et de gauche, dans les salles d'attente et dans les bureaux, les 3 ou 4 douzaines d'inspecteurs qu'il avait emmenés. De la sorte, il était tranquille. Si M. Nicole tentait d'aborder Vorenglade, on arrêtait Lupin, et pour plus de sûreté, on arrêtait toute personne pouvant être soupçonnée ou bien d'être Lupin ou un émissaire de Lupin. En outre, Praville effectua une ronde minutieuse dans toute la gare. Il ne découvrit rien de suspect, mais à 6h10, l'inspecteur principal Blanchon, qui l'accompagnait, lui dit « Tenez, voilà Dobrec ». C'était Dobrec, en effet. Et l'abus de son ennemi exaspéra tellement le secrétaire général qu'il fut sur le point de le faire arrêter. Mais pour quel motif? De quel droit? En vertu de quel mandat? D'ailleurs, la présence de Dobrec prouvait, avec plus de force encore, que tout dépendait maintenant de Vorenglade. Vorenglade possédait les lettres. Qui les aurait? Dobrec? Lupin? Ou lui, Praville? Lupin n'était pas là et ne pouvait pas être là. Dobrec n'était pas en mesure de combattre. Le dénouement ne faisait donc aucun doute. Praville rentrerait en possession de ses lettres et par là même échapperait aux menaces de Dobrec et de Lupin et recouvrerait contre eux ses moyens d'action. Le train arrivait. Conformément aux ordres de Praville, le commissaire de la gare avait donné l'ordre qu'on ne laissât passer personne sur le quai. Praville s'avança donc seul, précédant un certain nombre de ses hommes que conduisait l'inspecteur principal Blanchon. Le train stoppa. Presque aussitôt, Praville aperçut, à la portière d'un compartiment de première classe situé vers le milieu, Vorenglade. L'ancien député descendit, puis donna la main, pour l'aider à descendre, à un monsieur âgé qui voyageait avec lui. Praville se précipita et lui dit vivement « J'ai à te parler, Vorenglade. » Au même instant, Dobrec, qui avait réussi à passer, surgissait et s'écria « Monsieur Vorenglade,
J'ai reçu votre lettre. Je suis à votre disposition. » Forengad regarda les deux hommes, reconnut Pravil et Dobrek, et sourit. « Ah ah ! Il paraît que mon retour était attendu avec impatience. De quoi donc s'agit-il ? D'une certaine correspondance, n'est-ce pas ?»«
Mais oui, » répondirent les deux hommes empressés autour de lui.
« Trop tard, » déclara-t-il.
« Hein, quoi ? Qu'est-ce que vous dites ?»«
Je dis qu'elle est vendue. »«
Vendue ? Mais à qui ?»«
Ah, monsieur, » répliqua Forengad, en désignant son compagnon de voyage.
« Un monsieur qui a jugé que l'affaire valait bien un petit dérangement et qui est venu au-devant de moi jusqu'à Amiens. »
Le monsieur âgé, un vieillard emmitouflé de fourrure et courbé sur une canne, salua.
« C'est Lupin, » pensa Braville. « Il est hors de doute que c'est Lupin. »
Il jeta un coup d'œil du côté des inspecteurs, prêt à les appeler, mais le monsieur âgé expliqua.
« Oui, il m'a semblé que cette correspondance méritait quelques heures de chemin de fer et la dépense de 2 billets d'aller-retour. »
« 2 billets. Un pour moi et le second pour un de mes amis. »«
Un de vos amis. »«
Oui, il nous a quittés il y a quelques minutes et par les couloirs, il a gagné l'avant du train. Il était pressé. »
Pravil comprit. Lupin a vu la précaution d'emmener un complice. Et ce complice emportait la correspondance. Décidément, la partie était perdue.
Lupin tenait la proie solidement. Il n'y avait qu'à s'incliner et à subir les conditions du vainqueur.
« Soit, monsieur. » « Quand l'heure sera venue, nous nous verrons. À bientôt, Dobrek. Tu entendras parler de moi. »
Et il ajouta, entraînant Forengad. « Quant à toi, Forengad, tu joues là un jeu dangereux. »«
Et pourquoi donc, mon Dieu ?» fit l'ancien député.
Ils s'en allèrent tous les deux. Dobrek n'avait pas dit un mot, et il restait immobile, comme cloué au sol. Le monsieur âgé s'approcha de lui et murmura.
« Dis donc, Dobrek, il faut te réveiller, mon vieux. » « Le chloroforme, peut-être ?»
Dobrek serra les poings et poussa un grognement sourd.
« Ah ! » fit le monsieur âgé. « Je vois que tu me reconnais. Alors tu te rappelles cette entrevue il y a plusieurs mois, quand je suis venu te demander dans ta maison du square Lamartine ton appui en faveur de Gilbert ? Je t'ai dit ce jour-là, bats les armes. Sauve Gilbert et je te laisse tranquille. Sinon je te prends la liste des 27 et tu es fichu. »
« Eh bien, je crois que tu es fichu.
Voilà ce que c'est que de ne pas s'entendre avec ce bon monsieur Lupin. On est sûr, un jour ou l'autre, d'y perdre jusqu'à sa chemise. Enfin, que cela te serve de leçon.
Ah, ton portefeuille, que j'ai oublié de te rendre. Excuse-moi si tu le trouves un peu allégé. Il y avait dedans, outre un nombre respectable de billets, le reçu du garde-meuble, où tu as mis en dépôt le mobilier d'Anguin que tu m'avais repris. J'ai cru devoir t'épargner la peine de le dégager toi-même. À l'heure qu'il est, ce doit être fait. Non, ne me remercie pas. Il n'y a pas de quoi. Adieu, Dobrek. Et si tu as besoin d'un louis ou deux pour t'acheter un autre bouchon de carafe, je suis là. Adieu, Dobrek. » Il s'éloigna. Il n'avait pas fait 50 pas que le bruit d'une détonation retentit. Il se retourna. Dobrek s'était fait sauter la cervelle.
« De profundis, » murmura Lupin, qui enleva son chapeau.
Un mois plus tard, Gilbert, dont la peine avait été commuée en celle de travaux forcés à perpétuité, s'évadait de l'île de Ré, la veille même du jour où on devait l'embarquer pour la Guyane. Étrange évasion dont les détails demeurent inexplicables et qui, autant que le coup de fusil du boulevard Arago, contribua au prestige d'Arsène Lupin.
Somme toute, me dit Lupin, après m'avoir raconté les diverses phases de l'histoire, somme toute, aucune entreprise ne m'a donné plus de mal, ne m'a coûté plus d'efforts que cette sacrée aventure, que nous appellerons, si vous voulez bien, le bouchon de cristal, ou comme quoi il ne faut jamais perdre courage. En 12 heures, de 6 heures du matin à 6 heures du soir, j'ai réparé 6 mois de malchance, d'erreurs, de tâtonnements et de défaites. Ces 12 heures-là, je les compte certes parmi les plus belles et les plus glorieuses de ma vie. Et Gilbert, qu'est-il devenu ? Il cultive ses terres au fond de l'Algérie, sous son vrai nom, sous son seul nom d'Antoine Mergy. Il a épousé une Anglaise, et ils ont un fils qu'il a voulu appeler Arsène. Je reçois souvent de lui de bonnes lettres enjouées et affectueuses. Tenez, encore une, aujourd'hui, lisez.
Patron, si vous saviez ce que c'est bon d'être un honnête homme, de se lever le matin avec une longue journée de travail devant soi, et de se coucher le soir, harassé de fatigue. mais vous le savez, n'est-ce pas? Arsène Lupin a sa manière un peu spéciale, pas très catholique. Mais bon, au jugement dernier, le livre de ses bonnes actions sera tellement rempli qu'on passera l'éponge sur le reste. Je vous aime bien, patron.
Le brave enfant, ajouta Lupin, pensif.
Et Madame Mergy? Elle demeure avec son fils ainsi que son petit Jacques.
Vous l'avez revu?
Je ne l'ai pas revu.
Tiens.
Lupin hésita quelques secondes, puis il me dit en souriant.
Mon cher ami, je vais vous révéler un secret qui va me couvrir de ridicule à vos yeux.
Mais vous savez que j'ai toujours été sentimental comme un collégien, et naïf comme une oie blanche. Eh bien, le soir où je suis revenu vers Clarisse Mergy, et où je lui annonçais les nouvelles de la journée, dont une partie d'ailleurs lui était connue, j'ai senti deux choses très profondément. D'abord, que j'éprouvais pour elle un sentiment beaucoup plus vif que je ne croyais. Ensuite, et par contre, qu'elle éprouvait pour moi un sentiment qui n'était dénué ni de mépris, ni de rancune, ni même d'une certaine aversion.
Bah, et pourquoi donc?
Pourquoi? Parce que Clarisse Mergy est une très honnête femme, et que je ne suis qu'Arsène Lupin.
Ah,
mon Dieu, oui, bandit sympathique, cambrioleur romanesque et chevaleresque, pas mauvais diable au fond, tout ce que vous voudrez. N'empêche que pour une femme vraiment honnête, de caractère droit et de nature équilibrée, je ne suis, quoi, qu'une simple fripouille. Je compris que la blessure était plus aiguë qu'il ne l'avouait, et je lui dis « Alors comme ça, vous l'avez aimée ?»«
Je crois même, dit-il d'un ton railleur, que je l'ai demandé en mariage, n'est-ce pas?
Je venais de sauver son fils, alors je m'imaginais... »
Quelle douche!
Cela jetait un froid entre nous.
Depuis...
Mais depuis, vous l'avez oublié?
Oh, certes, mais combien difficilement!
Et pour mettre entre nous une barrière infranchissable, je me suis marié.
Allons donc, vous êtes marié, vous, Lupin!
Tout ce qu'il y a de plus marié, et le plus légitimement du monde,
un des plus grands noms de France.
Fille unique, fortune colossale.
Comment?
Vous ne connaissez pas cette aventure-là? Elle vaut pourtant la peine d'être connue.
Et sans plus tarder, Lupin, qui était en veine de confidence, se mit à me raconter l'histoire de son mariage avec Angélique de Sarzeau-Vendôme, princesse de Bourbon-Condé, aujourd'hui sœur Marie-Auguste, humble religieuse cloîtrée au couvent des Dominicaines.
Mais dès les premiers mots, il s'arrêta, comme si tout à coup son récit ne l'eût plus intéressé, et il demeura songeur.
« Qu'est-ce que vous avez, Lupin ?»«
Moi ?
Rien. »«
Mais si ! Et puis, tenez, voilà que vous souriez. »«
C'est la cachette de Dobrec, son œil de verre, qui vous fait rire ?»«
Ma foi, non. »«
En ce cas,
rien, je vous dis, rien qu'un souvenir. »«
Un souvenir agréable ?»«
Oui, oui, délicieux même. »« C'était la nuit, au large de l'île de Ré. »
Sur la barque de pêche où Clarisse et moi nous emmenions Gilbert. Nous étions seuls, tous les deux, à l'arrière du bateau, et je me rappelle.
J'ai parlé, j'ai dit des mots et des mots encore, tout ce que j'avais sur le cœur, et puis se fait le silence qui trouble et qui désarme.
Eh bien,
je vous jure que la femme que j'ai serrée contre moi,
oh, pas longtemps, quelques secondes,
n'importe.
Je vous jure, Dieu, que ce n'était pas seulement une mère reconnaissante,
ni une amie qui se laisse attendrir, mais une femme aussi, une femme tremblante et bouleversée.
Il ricana.
Et qui s'enfuit le lendemain pour ne plus me revoir.
Il se tut de nouveau, puis murmura.
Clarisse.
Clarisse.
Le jour où je serai là et désabusé, j'irai vous retrouver là-bas, dans la petite maison arabe, dans la petite maison blanche.
Où vous m'attendez, Clarisse, où je suis sûr que vous m'attendez.
Ainsi s'achève Le bouchon de cristal de Maurice Leblanc.